La parole est maintenant à Madame Hélène Franco, secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
Bonjour à tous. Merci au collectif national pour les droits des femmes d'inviter le syndicat de la magistrature à travers nos personnes à s'exprimer à ce colloque. D'abord, merci doublement parce que je subodore que ma parole aujourd'hui sera quelque peu dissonante si j'en juge par ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis le début de l'après-midi. Je n'ai pas pu venir ce matin. Alors d'abord, quelques mots pour vous rappeler ce qu'est le syndicat de la magistrature, peut-être. C'est un syndicat de magistrats, donc qui regroupe des juges et des procureurs de la République, des parquetiers, procureurs et substituts du procureur de la République, qui est né en 1968, le 17 juin 1968 exactement. Donc vous voyez un petit peu, je pense, la filiation, on va dire, idéologique hein, de cette organisation qui, donc, cette année, fête ses 40 ans d'existence. Évidemment, la filiation étant celle du mouvement que nous considérons toujours comme émancipateur de mai 1968, que notre actuel président de la République rêve de liquider. Voilà, donc nous ne sommes pas encore liquidés totalement et nous pesons donc environ 30% des voix aux élections professionnelles. Nous sommes effectivement dans cette maison justice, on va dire, côté magistrature. Au départ, nous étions, je n'en étais pas personnellement, mais en 1968, le syndicat de la magistrature est un ovni. Et il en reste un petit peu quelque chose, hein, puisque l'idée qu'il y ait déjà une lutte collective sous forme syndicale dans la magistrature, ça ne va pas de soi. Et encore plus sous un point de vue d'émancipation et sous un point de vue progressiste, il faut le dire, nous nous situons de ce côté-là de l'échiquier. Alors, ceci étant posé, je voudrais m'en tenir au sujet qui m'a été assigné aujourd'hui, à savoir parler de la politique répressive et de la remise en cause des droits et des libertés à laquelle nous assistons depuis un certain nombre d'années. Politique répressive, on peut aussi traduire cela par émergence d'une société sécuritaire. Qu'est-ce qu'une société sécuritaire ? C'est une société dans laquelle on fait croire, et généralement nos gouvernants y arrivent assez bien ces dernières années, on fait croire à une majorité de citoyens que à tout problème de société, correspond une réponse unique qui est la réponse pénale, en l'occurrence, et la réponse répressive et de plus en plus répressive. Je prendrai un certain nombre d'exemples. Évidemment, je ne veux pas vous faire la litanie des lois répressives en matière pénale qui ont été votées depuis 2000 ans, puisqu'il y en a une quinzaine, hein, avec pour cible principale, il faut bien le dire, les mineurs délinquants, évidemment, ces nouveaux monstres, évidemment, les étrangers également, hein, un certain nombre de populations particulièrement vulnérables et particulièrement ciblées par ces lois prises ces dernières années. Alors, sur les quelques exemples que je souhaitais prendre, sur la construction hein, de cette société sécuritaire telle que je l'ai définie à l'instant, prenons l'exemple de la loi du 18 mars 2003, dite de sécurité intérieure, portée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur à l'époque, du jour au lendemain, hein, puisque c'est le pouvoir très important des parlementaires, et c'est normal que ce soit les parlementaires qui aient ce pouvoir-là, que de définir quel comportement est punissable par la loi pénale, c'est-à-dire avec à la clé, évidemment, des peines d'emprisonnement encourues. Dans la loi du 18 mars 2003, vous avez un certain nombre de comportements qui, la veille ne pouvait pas entraîner de peine d'emprisonnement, et qui, par la force de cette loi du 18 mars 2003, eh bien, deviennent des délits. Parmi ces comportements, je cite le racolage passif, je cite la mendicité agressive, je cite l'entrave à la circulation dans les halls d'immeubles, il l'a trouvé celle-là, ils l'ont trouvé. Auparavant, dans la loi dite de sécurité quotidienne, hein, voyez un petit peu la filiation des termes, c'est intéressant, sécurité intérieure en 2003, et auparavant, en novembre 2001, c'était la loi Vaillant, du ministre de l'Intérieur de l'époque d'un gouvernement socialiste, je le rappelle, 15 novembre 2001, on avait la loi déjà sécurité quotidienne qui avait, par exemple, créé le délit, donc avec prison à la clé, de fraude habituelle dans les transports publics. Voilà. Donc, tout ça pour vous situer un petit peu, on va dire, les caractéristiques de ces différentes lois. Sur fond de frénésie législative, vous avez dans ces lois des populations parmi les plus défavorisées de ces sociétés qui sont particulièrement ciblées. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas souvenir de lois récentes rendant plus sévères un certain nombre de règles applicables à des délinquants en col blanc, par exemple. Je n'ai pas de souvenir de ça. Au contraire, l'actuel gouvernement a réuni une commission, dite commission Coulon, hein, pour réfléchir à la dépénalisation du droit des affaires. Bon, revenons à notre sujet. Ces lois donc, ont pour caractéristique de cibler particulièrement des populations parmi les plus pauvres et également de déséquilibrer la procédure pénale et de déstabiliser même le droit, hein, dans ses principes fondateurs, de manière tout à fait importante, pour ne pas dire plus. Sur fond, évidemment, d'augmentation de la répression également, des peines encourues, etc. Déséquilibre de la procédure pénale, bah, essentiellement au profit de l'accusation, au profit du procureur de la République, hein, qui peut déterminer beaucoup plus, en se passant de l'avis du juge, qui peut déterminer beaucoup plus l'orientation des procédures, faire appel, par exemple, à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, hein, c'est le plaidé coupable à la française, comme on a dit, hein, qui est à l'initiative, c'est, en tout cas au départ de la procédure, c'est le procureur de la République qui est à l'initiative, hein, de la proposition qui est faite à la personne poursuivie de reconnaître sa culpabilité et, en contrepartie, eh bien, de pouvoir, par avance, acquiescer, en quelque sorte, hein, à une peine qui sera ou ne sera pas, ce qui est un peu plus exceptionnel, homologué par le juge en audience publique. Hein. Donc ça, c'est véritablement une caractéristique de ces lois, de déséquilibrer la procédure en faveur de l'accusation et évidemment au détriment des droits de la défense, puisque je vous rappelle que sur fond d'augmentation tout à fait considérable du nombre de gardes à vue, eh bien, les avocats en garde à vue, par exemple, n'ont toujours pas le droit d'accéder au dossier, n'ont toujours pas le droit d'assister aux interrogatoires de garde à vue, n'ont toujours pas le droit de poser des questions dans le cadre de ces interrogatoires, évidemment, auxquels ils ne participent pas, et donc ne peuvent visiter leurs clients en garde à vue que pour s'assurer qu'ils ont bien mangé, bien bu, et qu'ils sont à peu près correctement traités. Voilà, donc ça, c'est véritablement la caractéristique principale de ces lois, de déséquilibrer, hein, la procédure en faveur de l'accusation et au détriment des droits de la défense. Il y a une déstabilisation même du droit pénal, hein, et des principes fondateurs du droit pénal. Vous avez tous entendu parler de la rétention de sûreté, hein, et donc là, on va bien au-delà d'un simple déséquilibre de la procédure. On remet en cause des principes même biséculaires, hein, qui ont plusieurs siècles, comme celui qui consiste à dire qu'on ne peut pas enfermer judiciairement quelqu'un si on ne peut pas mettre en face de cette décision d'enfermement judiciaire un acte. Or, c'est ça qui se passe avec la rétention de sûreté, c'est que sur simple potentialité dangereuse, déterminée par une commission, eh bien, on pourra laisser enfermer quelqu'un indéfiniment, potentiellement indéfiniment, entre quatre murs, alors même qu'il aura déjà purgé sa peine. Alors, revenons peut-être un instant à la loi cadre. Bon, le syndicat de la magistrature en a débattu d'ailleurs, enfin on a débattu au niveau de son bureau national, parce que je savais aussi d'ailleurs que je venais ici, donc c'était important qu'on puisse en débattre. Et le syndicat de la magistrature ne peut pas soutenir cette loi cadre, en tout cas dans son contenu pénal, hein, concernant la procédure pénale. Pourquoi ? Parce que, bon, au-delà de ce qui est proposé d'interdire aux juges, excusez du peu, on leur interdit déjà beaucoup de choses à ces juges irresponsables et laxistes. Donc, au-delà du fait d'interdire aux juges d'ordonner un certain nombre de mesures d'instruction, parce que dans le fond, bon, ça n'aura pas tellement d'implication dans le réel, étant donné que la plupart de ces affaires passe d'ores et déjà en comparution médiatique et que de toute façon les procédures d'instruction c'est pas véritablement ce qui se fait couramment en comparution immédiate. Bon, au-delà du contenu très spécifique hein, de ces articles concernant la procédure pénale dans la loi cadre, nous sommes tout à fait opposés à la mise en place de juridictions spécifiques que vous appelez le juge ou la cour d'assises ou le tribunal de la violence à l'encontre des femmes. Pourquoi ce refus, évidemment, de juridiction spécifique ? D'abord parce que ça serait, pour le coup, nous renier complètement, puisque l'un des combats du syndicat de la magistrature, c'est justement de se battre contre l'émergence de droits d'exception dans tout un tas de domaines. Les stupéfiants, le terrorisme, un certain nombre de droits d'exception qui émergent ces dernières années. Et justement, l'une de nos revendications, c'est d'en finir avec ces règles d'exception. Et puis, vous le savez sûrement, il n'y a pas aujourd'hui de juridiction spécifique de la violence faite aux enfants. Je vais vous surprendre, puisque le juge des enfants n'est pas là pour ça, hein, vous le savez. Le juge des enfants n'est pas là pour... j'ai oublié d'indiquer que je suis juge des enfants depuis plus de 6 ans à Bobigny. Le juge des enfants n'est pas là pour donner une réponse aux actes de violence commis, réponse pénale, aux actes de violence commis sur des enfants. Hein. Ça, c'est un tribunal correctionnel ou éventuellement une cour d'assises qui doit s'en charger, qui doit se charger de juger les éventuelles les personnes poursuivies dans ces actes éventuels. Donc il n'existe pas aujourd'hui de juridiction spécifique pour les violences faites aux enfants, puisque c'est une cour d'assises à ce moment-là, ou un tribunal correctionnel non spécifique hein, qui juge de cela. Il n'y a pas non plus de juridiction spécifique pour traiter, par exemple, des violences faites aux vieillards, et c'est pourtant un fait de société important, vous avez pu voir sans doute un certain nombre d'émissions récentes là-dessus. Donc ce que nous voyons comme risque évident à ce genre de mise en place hein, de juridiction spécifique, c'est non seulement le risque bon, de retomber, je le disais, dans un énième droit d'exception, on dirait qu'il en existe déjà pas mal, mais justement on se bat contre cela. Mais c'est aussi un risque plus important à nos yeux, qui est presque un risque de communautarisme et un risque... Et un risque de concurrence victimaire, comme il peut exister une concurrence mémorielle, hein, par-ci, par-là, qui émerge. Eh bien, il pourrait y avoir ce risque de concurrence victimaire entre les victimes et en fait de séquençage hein, à outrance de la société. Pourquoi ce risque de concurrence victimaire ? Parce que, évidemment, nous vivons dans une société qui est ce qu'elle est. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, l'intérêt de la parole que je porte aujourd'hui devant vous, c'est de voir que lorsqu'on fait une proposition, il faut tenir compte, évidemment, de la société dans laquelle cette proposition est faite. Le discours, il y a un discours victimaire aujourd'hui dominant qui est celui véhiculé par, pour aller très très vite, Nicolas Sarkozy. Avec un contenu idéologique excessivement fort, excessivement efficace d'ailleurs, qui consiste à, en permanence, faire croire que ceux qui seraient pour les droits de l'homme, pour les droits et les libertés pour chacun, eh bien, y compris évidemment pour les personnes poursuivies en justice, parce qu'elles en ont peut-être plus besoin que d'autres, justement, de ces droits et libertés, eh bien, que ceux qui donc sont qualifiés par l'actuel président de la République, dont le syndicat de la magistrature, évidemment, de droits de l'hommiste, hein, eh bien, que ces droits de l'hommiste seraient ipso facto opposés aux droits des victimes, opposés à la reconnaissance des victimes et à faire avancer leurs droits. Donc là, c'est véritablement la victoire idéologique de Nicolas Sarkozy, hein, que d'avoir fait croire cela sans doute à une majorité de nos concitoyens. Nous disons tout à fait autre chose. Nous disons que les périodes historiques où les droits des victimes et les droits de l'homme ont avancé, eh bien tout cela a pu et s'est fait complètement de pair. Et je prends l'exemple du début des années 80 avec Robert Badinter, ministre de la Justice, qui met fin à un certain nombre de droits d'exception, justement, de juridiction d'exception également, abolit la peine de mort, évidemment, vous en souvenez, et pose un certain nombre d'actes très très forts, législatifs, pour faire avancer concrètement le droit des victimes. Donc évidemment, tout cela, pour nous, va complètement de pair. Et lorsque on choisit de manière complètement artificielle les droits des victimes, en faisant croire que faisant cela, on s'opposerait aux monstres, hein, puisqu'on a un président de la République qui parle de cette manière-là, donc je parle aussi de cette manière-là, aux monstres, hein, eh bien, à ce moment-là, on a effectivement cette fracture de la société qui vise d'ailleurs à dépolitiser le débat. Parce qu'évidemment, quand on vous a sorti le mot de monstre, vous n'avez plus qu'à vous incliner, hein. Parce que si vous dites qu'il faut aussi des droits et des libertés pour ceux qu'on appelle monstres en haut lieu, eh bien, vous êtes leurs complices. Vous n'avez plus, donc, voix au chapitre. Alors, bon, on me dit qu'il faut terminer, donc je termine très rapidement. Je vous disais, pour commencer, que ma voix serait peut-être un peu discordante parce que j'ai entendu des choses qui, effectivement, dans la précédente table ronde, notamment, avec lesquels je ne suis pas en accord. Lorsque notre ami espagnol, tout à l'heure, avait l'air de faire une sorte de d'opposition, en tout cas, entre présomption d'innocence et le fait que ce qui existe aujourd'hui, c'est une présomption de mensonge de la victime. Bon, je crois que c'est pas en ces termes qu'il faut poser le débat, parce que effectivement, c'est pas parce qu'il existe la présomption d'innocence, et ça c'est quand même le principe qui est d'ailleurs remis en cause par un certain nombre de dispositions, le principe dans lequel nous devons croire tous, parce que ça c'est, s'il y a plus cela, tout le reste s'écroule, mais c'est pas parce que les juges doivent fonctionner, c'est une obligation légale, avec l'idée qu'il y a la présomption d'innocence, qu'il y aurait une présomption de mensonge de la victime. C'est pas du tout dans ces termes-là que ça se joue. Pour aller très vite, toujours notre ami espagnol tout à l'heure disait, enfin, semblait reconnaître en tout cas une valeur positive à l'idée de dissuasion, hein, avec cette création donc de règles et de juridictions spécifiques. C'est pas dans ces termes-là, là encore, que j'aurais envie de poser le débat. D'abord parce que l'effet dissuasif, la valeur dissuasive, même des peines les plus lourdes, on sait ce qu'il faut en penser. On sait ce qu'il faut en penser depuis 1981, dans ce pays particulièrement, puisque les abolitionnistes de la peine de mort avant 1980 étaient traités de fous dangereux par les tenants de la peine de mort en disant « mais vous êtes fous, si vous abolissez la peine de mort, il va y avoir une explosion du crime ». Bon, parce que valeur dissuasive de la peine de mort. Évidemment, on sait qu'il n'en est rien, on le sait par les chiffres, puisqu'il y a eu, je vous le rappelle, même si ce n'est pas sur TF1, ça se le dira, mais peut-être dans cette salle, il y a eu depuis 1981 un léger tassement du nombre de crimes par habitant. Léger. Il n'y a pas eu une explosion du crime.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Et donc, il y a eu une baisse du nombre de crimes par habitant. Voilà. Donc, valeur dissuasive, si on rentre là-dedans, eh bien, c'est évidemment la porte ouverte à de plus en plus de mesures répressives, puisque si même la peine de mort n'avait aucune valeur dissuasive, on le sait maintenant, on s'en doutait déjà un petit peu avant, eh bien, c'est vous dire que la course à la répression est une course sans fin. Enfin, Monsieur Lampert, tout à l'heure, disait l'émergence d'un délit spécifique, tel que vous l'avez énoncé tout à l'heure, permettrait de nommer une réalité. Mais justement, tout le combat du syndicat de la magistrature aujourd'hui, c'est de dire que on peut nommer bien plus intelligemment, excusez-moi, hein, c'est pas du tout personnel, bien plus intelligemment, avec beaucoup plus de pensée, une réalité en dehors de l'outil pénal. Parce que nous pensons que nous sommes aujourd'hui une société qui est dépendante, au sens toxicomane du terme, de la réponse pénale. Et j'en reviens à ce que je disais au tout début, société sécuritaire, ça veut dire que l'outil pénal est la réponse univoque à des problèmes aussi variés que des problèmes de misère, que des problèmes de prostitution, que des problèmes d'insertion des jeunes dans la société, etc., etc. Donc, disons simplement qu'il y a des comportements qui doivent purement et simplement sortir du code pénal. Je ne parle pas des violences faites aux femmes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ni du viol, d'ailleurs, évidemment. Simplement, il y a des comportements que j'ai énumérés tout à l'heure, donc il n'y a pas de surprise, qui doivent sortir du code pénal pour donner place à d'autres réponses, des réponses éducatives, des réponses sociales, des réponses d'accompagnement humain, etc., etc. Et c'est tout cela, évidemment, aujourd'hui, qui est battu en brèche pour une seule et même réponse, qui est l'alourdissement des peines, la répression à tout craint, au mépris de principes essentiels de notre droit et de notre vie en société. Merci.